Il arrive toujours ce moment, le moment de partir. On peut bien traîner encore un peu, à faire des adieux inutiles et à ramasser des choses qu'on jettera sur le chemin. Le moment nous regarde et on sait qu'il ne reculera plus. L'instant du départ nous attend à la porte, comme quelque chose dont on sent la présence, mais qu'on ne peut toucher. Dans la réalité, il prend l'aspect d'une valise. Le temps passé ailleurs que dans son village natal est un temps qui ne peut être mesuré, un temps hors du temps inscrit dans nos gènes. Seule une mère peut tenir pareil compte. La mienne a fait pendant 32 ans, sur un calendrier Esso, une croix sur chaque jour passé sans me voir. Je ramène au pays, sans cérémonie des adieux, ces dieux qui m'ont accompagné durant ce long voyage, en m'empêchant de perdre la raison. Si tu ne connais pas le vaudou te connaît. Les visages autrefois aimés s'efface au fil des jours de notre mémoire brûlée. Le drame de ne plus reconnaître même ceux qui nous furent proches. L'herbe repousse après l'incendie, afin de camoufler toute trace du sinistre. En fait, la véritable opposition n'est pas entre les pays, si différents soient-ils, mais entre ceux qui ont l'habitude de vivre sous d'autres latitudes, même dans une condition d'infériorité, et ceux qui n'ont jamais fait face à une autre culture que la leur. Seul le voyage sans billet de retour peut nous sauver de la famille, du sang et de l'esprit de clocher. Ceux qui n'ont jamais quitté leur village s'installent dans un temps immobile qui peut se révéler à la longue nocif pour le caractère. Pour les trois quarts des gens de cette planète, il n'y a qu'une forme de voyage possible, c'est de se retrouver sans papier. Dans un pays dont on ignore la langue et les mœurs. On se trompe à les accuser de vouloir changer la vie des autres quand ils n'ont aucune prise sur leur propre vie. Si on veut vraiment partir, il faut oublier l'idée même de la valise. Les choses ne nous appartiennent pas. On les a accumulées par simple souci de confort. C'est ce confort qu'il faut questionner avant de franchir la porte. On doit comprendre que le minimum de confort qu'il faut pour vivre ici en hiver est une situation rêvée là-bas. Je crains qu'un événement, si fort soit-il, ne puisse jamais bousculer un homme dans ses habitudes. La décision est prise bien longtemps avant qu'on ait véritablement conscience, et pour une raison qui nous échappera toujours. L'instant du départ est si longtemps inscrit en nous que le moment où il arrive nous semblera toujours banal. Extrait L'énigme du retour d'Annie Laferrière. Merci.
Je vais vous lire un extrait d'Adieu mon frère d'Edwidge d'Antica. Edwidge d'Antica, qui est une auteure que j'aime beaucoup, non seulement pour ses livres, mais parce que c'est beaucoup grâce à elle que j'ai connu Rodney Saint-Éloi, et que j'ai aussi connu Michelet d'Hiver, qui est à Jacmel, et dont je n'ai pas de nouvelles depuis le 12 janvier. Mes parents étaient sur le point de célébrer leur 4e anniversaire de leur mariage lorsque je suis né, en 1969. 20 mois plus tard, Bob suivit. Après ma naissance et celle de Bob, mon père se remit à coudre lorsqu'il rentrait de son magasin de chaussures. Ma mère l'aidait à fabriquer des uniformes d'écoliers et de minuscules drapeaux pour les enfants des écoles le jour du drapeau. Un après-midi, peu avant la fermeture de la boutique, le patron parla à mon père de son fils qui allait bientôt partir en vacances à New York. « Croyez-vous que je pourrais avoir un visa ?» demanda mon père. À cette époque, comme aujourd'hui, quitter le pays semblait souvent la seule solution. Surtout quand on était malade, comme mon oncle, ou pauvre, comme mon père, ou sans aucun espoir, comme eux deux. Le patron de mon père proposa de lui écrire une lettre pour appuyer sa demande. Comme il avait un emploi, une femme et 2 enfants, c'est-à-dire autant de motivation pour retourner en Haïti, mon père reçut un visa de tourisme 1 mois. Mais il n'avait aucune intention de revenir. Je n'ai pas gardé de souvenir du départ de mon père ou d'un quelconque événement qui l'aurait précédé. La fille adoptive d'oncle Joseph et de tante Denise, Marie-Michel, aimait me raconter souvent comment, l'année avant que mon père ne parte, souvent le soir, sur le chemin de retour de son travail, il achetait un petit paquet de gâteaux secs au beurre à mon intention. Je n'aimais pas les gâteaux secs. Mais mon visage s'illuminait quand je les voyais et je riais à gorge déployée quand il m'en donnait un que je lui rendais aussitôt pour m'esclaffer plus encore quand il le faisait disparaître dans sa bouche. J'ai depuis découvert que les enfants qui grandissent sans leurs parents aiment entendre de pareilles histoires qu'ils peuvent embellir et développer à loisir. Ce genre d'anecdotes nous mettent momentanément à l'aise, nous assure que nous sommes aimés par le parent qui est parti. Malheureusement, on ne m'a jamais raconté beaucoup d'histoires comme celle-ci. En revanche, j'ai souvent entendu parler de l'avenir, de ce temps indéterminé où mon père nous ferait venir, ma mère, Bob et moi. En l'absence de mon père, oncle Joseph s'arrêtait de temps à autre pour nous rendre visite après son travail. Et bien entendu, ma mère, Bob et moi allions toujours aux offices dans son église. Farouchement indépendante et trop fière pour demander la participation de mon oncle ou pour emprunter de l'argent lorsque les mensualités que mon père lui envoyait étaient épuisées, Ma mère continuait de coudre des uniformes d'écoliers et des drapeaux. Un dimanche matin, où elle n'avait plus un sou vaillant, elle nous laissa sur les genoux de mon oncle après l'office pour que nous puissions avoir un vrai repas du dimanche avec lui et tante Denise. Un jour, tout cela prendra fin, lui dit ma mère. Puis elle s'enfuit à la maison en pleurs.
Connaissez-vous l'histoire de ce chasseur accusé de meurtre puis acquitté après avoir convaincu les juges qu'il n'avait pas tiré sur un homme, mais sur un animal, plus précisément un buffle ? Me demanda Lionel X. Nous nous trouvions à la terrasse d'un excellent restaurant de Pétionville. J'étais en compagnie d'un ancien officier de l'armée, médecin très connu, qui avait tenu à me rencontrer parce que, disait-il, fasciné par mes écrits. Il voulait m'entretenir d'un fait plus que singulier. « J'en ai entendu parler, lui répondis-je. Qu'en pensez-vous ? Je crois que les juges se sont laissés avoir, lui dis-je. J'étais peu enclin à croire à ces histoires de métamorphoses auxquelles tant de gens, chez nous et en Afrique, prêtaient foi. Vous raisonnez comme un occidental empêtré dans un matérialisme qui fait haut pourtant de toutes parts, remarqua Lionel X. Je ne vous critique pas. J'étais comme vous, jusqu'au jour. Il tourna son verre de rhum entre les doigts, comme s'il se demandait s'il devait aller au bout de sa pensée. Cela s'est passé il y a tout juste un mois, commença Lionel X. Ma femme et moi venions d'emménager dans une maison à La Boule, un coin charmant, pas beaucoup de voisins, de la verdure, bref, loin de la chaleur, du bruit et de la folie de Port-au-Prince. J'étais vraiment heureux d'avoir trouvé cette maison, surtout au prix qu'on me l'avait proposé. Je me dis que la suite allait faire honneur à la platitude habituelle des histoires haïtiennes. Bruit sur le toit, boule de feu dans le ciel, et pour finir, le personnage du loup-garou, si prisé chez nous. Je dois vous dire que nous avons un enfant en bas âge, un garçon d'un an. Intérieurement, je soupirai, tous les ingrédients étaient en place. La maison nouvellement louée, un lieu isolé, des arbres, un nouveau-né. Il allait certainement m'apprendre avec orgueil qu'il était soit franc-maçon, soit rose-croix, soit initié à une quelconque confrérie, lui en donner les armes pour combattre le mal. Les fêlés de ce genre sont nombreux en Haïti. Je commençais à regretter d'avoir accepté l'invitation. « Je sais ce que vous pensez, » me lança Lionel X, comme s'il avait lu dans mes pensées. « Je vais vous raconter une de ces histoires si communes chez nous. Je ne vous aurai pas déplacé pour cela, monsieur Victor, soyez-en certain. »« Je le souhaite sincèrement, » ripostai-je, en le regardant droit dans les yeux. Il prit une gorgée de rhum, déposa son verre et alluma tranquillement une cigarette. La première nuit, il était 2 heures du matin. Je fus réveillé par les aboiements de mon chien. Un bâtard généralement si calme que je me demandais à quoi il servait. N'était-ce ma femme, je me serais débarrassé de lui. Je me réveillai pour aller jeter un coup d'œil par la fenêtre. Le chien aboyait devant la barrière qui était assurément verrouillée. Je me dis qu'il devait s'agir d'un voleur rôdant dans les environs. J'allai me recoucher. Personne ne pouvait pénétrer chez moi. Si quelqu'un y arrivait, il serait bien accueilli, monsieur Victor. Je suis un ancien militaire et j'ai de quoi me défendre. Je possède même un M16. Il se rengorgea. Encore un qui se prenait pour Rambo. Ce fut alors que j'entendis au dehors un souffle. Un souffle, m'étonnai-je. Un souffle, insista-t-il. La respiration saccadée et régulière de quelqu'un ou de quelque chose. Cela faisait aussi penser à une scie coupant du bois. Je tendis l'oreille. Cela dura quelques minutes. Le souffle se tut, recommença, puis s'arrêta définitivement. Je trouvai cela curieux. Ma femme dormait à point fermé, mon fils de même dans son berceau. Je me couchai. Fin du premier acte. Le second acte. C'est là que les choses se corsent, Monsieur Victor. La nuit suivante, je suis réveillé à la même heure par le chien. Si ce médecin ici a aboyé, c'est qu'il voyait ou sentait une chose dont il n'avait pas l'habitude et qui était certainement menaçante. J'entendis alors à nouveau le souffle au dehors, cette respiration saccadée qui faisait penser à une scie coupant du bois. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent et de terrifiant. Il se versa à nouveau du rhum. Je crus que ce n'était tout d'abord qu'une illusion, Monsieur Victor. La nuit, vos sens peuvent vous tromper. La frayeur est capable d'annihiler vos facultés. Les croyances enfouies facilement refont surface. J'entendis le souffle en même temps dans ma chambre. Mon fils d'un an respirait à l'unisson avec la chose au dehors. Habituellement, quand il dort, on ne l'entend pas respirer. Il n'a jamais eu de problème respiratoire. La chose dehors s'est tue. Mon fils aussitôt a retrouvé sa respiration normale. Je commençais à m'intéresser à cette histoire. « Vous avez fait quoi ?» lui demandai-je. « Rien. » Dehors, le souffle s'est fait à nouveau entendre. Mon fils s'est mis à respirer à l'unisson avec lui. Le souffle ralentissait, la respiration de mon fils ralentissait. Il accélérait, le souffle de mon fils s'accélérait. Quand je réalisais alors que ce n'était pas un cauchemar, que ce que je vivais était bien réel, que mon fils était sous l'emprise de quelque chose d'immonde, le souffle dehors cessa définitivement. Pour cette nuit, bien sûr. Votre femme ne s'était pas réveillée? Non, heureusement. Elle aurait paniqué. Quand elle s'endort, rien ne peut la réveiller. Il faudra un coup de canon. Il frappa son poing si violemment sur la table que son verre tomba et se brisa en 1000 morceaux. Un serveur se précipita. Lionel X commanda un autre demi. Je n'acceptais jamais qu'on s'en prenne à mon enfant, Monsieur Victor. Elle n'aurait pas dû. Elle ? M'étonnai-je. La nuit suivante, je me couchai, mais je ne m'endormais pas. J'attendais. Minuit, 1 heure du matin, le chien recommença à aboyer. J'entendis le souffle au dehors, quelque part dans les arbres de l'autre côté de la rue, tout juste en face de la fenêtre. J'avais pris la précaution de ne pas fermer à clé la barrière d'entrée. La chose se mit à respirer à l'unisson avec mon fils. Elle ralentissait, mon fils ralentissait. Elle accélérait, mon fils accélérait. Elle s'arrêtait, le souffle de mon fils s'arrêtait. Elle prenait possession de mon fils, Monsieur Victor. Je vis rouge. Vous faites quoi alors? Je ne suis ni franc-maçon, ni rose-croix, ni prêtre, ni onguent, ni membre d'une quelconque secte mystique. Mais j'ai mon M16. Ne me dites pas. Mais si, Monsieur Victor, je monte sur le toit et j'arrose les arbres en face de ma fenêtre avec 2 chargeurs de mon M16, je vous assure, tous les gens des environs ont cru à la guerre civile. Que se passe-t-il alors? Je n'entends plus le souffle. Le chien, cependant, continue à aboyer furieusement. Quelque chose tombe des arbres avec un bruit sourd. Le chien se met à gémir et à gratter la barrière. Je descends pour aller voir. Vous trouvez quoi? Accepteriez-vous de venir chez moi ? Me demande-t-il. Il faut que vous voyiez de vos propres yeux. Lui dire non maintenant était impossible. J'étais dévoré par la curiosité. Nous réglâmes les consommations, puis nous partîmes en voiture. Il nous fallut 10 minutes pour arriver chez Lionel X. Il habitait en effet un coin charmant, mais isolé en pleine montagne. Un garçon qui nous fit le salut militaire ouvrit la barrière. Lionel X gara sa voiture. Suivez-moi, me dit-il. Il me conduisait vers une bâtisse au fond d'une cour, gîte servant probablement de dépendance pour les domestiques. Il prit un trousseau de clés, en choisit une pour ouvrir une double porte en fer. Nous entrâmes dans une petite pièce éclairée par une ampoule suspendue par un fil au plafond. L'ancien officier déplaça au milieu de la pièce une trappe qui dévoila un escalier. « N'ayez pas peur, se contenta-t-il de dire, il ne vous arrivera rien. » Je descendis à la suite l'escalier, le cœur battant. Il ouvrit une autre porte qui nous permit d'entrer dans une pièce qui était de préférence une caverne, éclairée par une ampoule moribonde. Ce que je vis me laissa sans voix. Une cage à peine 2 mètres carrés. À l'intérieur, une vieille femme accroupie, les chaînes aux pieds, un bras coupé au niveau du coude, le moignon entouré d'un bandage sanglant. Quand elle nous vit, elle poussa une sorte de miaulement sauvage. De son bras valide, elle vint agripper un barreau de la cage. Les yeux de la vieille femme reflétaient le mal le plus absolu. Elle, me dit Lionel X, je ne connais pas son nom. Voici ce que j'ai atteint cette nuit dans les arbres. Vous en êtes certain, demandai-je, la voix tremblante. Je l'ai soignée de ses blessures du mieux que j'ai pu, dit Lionel X. Vous allez faire quoi d'elle? Elle mourra ici, monsieur Victor, me dit-il d'une voix effarante. Elle n'aurait eu aucune pitié de mon fils. Je n'en ai pas pour elle. Que prévoit la justice pour ces cas? Il n'y a aucune provision légale pour les choses qui sont censées ne pas exister. Il me prit par l'épaule. Venez, vous en avez assez vu. J'avais envie de vomir. Les lieux sentaient la pourriture. Elle va vraiment mourir? Demandai-je à Lionel X. Ici, elle n'a pas de souffle d'enfant pour la nourrir. Nous sortîmes à l'air libre. Je ne savais quoi dire. J'exigeais qu'il me ramène au restaurant. J'avais un urgent besoin d'alcool. Elle n'aurait pas dû s'attaquer à mon fils, s'excusa Lionel X. Le souffle des 13 nouvelles vaudous de Gary Victor.
J'écris aussi dans les livres. Note, derrière ma voix, veille le souvenir d'un matin où Dany Laferrière est descendu à la cuisine avec mon exemplaire de Da Vertige. Il nous a lu Pétionville en blanc et noir. Depuis, Da Vertige existe dans notre maison du lac. Sa vie, ce fut longtemps l'arbre de rêve bercé par la berceuse de l'enfance. Par la fumée d'un fer à repasser qui tournait ses cheveux, et des chiens dents rampaient autour de la maison, avec l'étoile aux yeux, avec la mare au cœur. La maison, cette remise où le jour nous logions, le charbon dans les fers brûlait, et l'enfance et l'histoire de famille. La maison emplissait de fumée toutes les têtes. L'odeur de lessive, d'amidon et de cendre gonflait par nos cheveux leurs bulles folles. Au chant des orages s'élevait l'herbe de la pluie. Je me souviens et me souviendrai. Par le bateau noir de son cœur, l'indigo délayé tournait ses lacs et des ciels aux yeux d'ange pour ses pensées qui s'envolaient comme des oiseaux sous du jour. Longtemps, bien longtemps, ce fut sa vie blanchie par de blancs linges repassés, imbibés dans des baignoires de vieux fer blanc. Je m'en souviens, je m'en souviens. C'était la cendre à ses cheveux roux d'or. Ô mémoire, ô cri cratère, redites-moi sa vie parmi les fleurs blanchies, parmi les fers à repasser, et le vieux moulin à café, parmi ces tables de lessiveuse et les cuvettes de linge frais. Mais voici qu'il y a 15 ans, de cendres, de pluie et d'orage, les gens d'alors, quelques-uns ne sont plus. Et me voici encore seul et sans affection sur la croix d'ombre de mon cœur, les yeux cloués au plafond de fumée, à côté de ce fer à repasser qui fume, ô mémoire remplie de cendres et de charbon ardemment, la table de linge lavée de pleurs et de sueurs, comme le ciel s'égoutte moins à l'horizon. Sa vie, cette tisane de chiens-dents dans la cruche mouillée, sa vie, plus fragile qu'un petit bateau dans l'eau sale, a de beaux enfants jouaient sur la place boyée, et sa vie tournait dans la chambre sur des jouets peints en bleu. Son ombre blanche renversée comme une lampe de larmes avides, Enfance, enfance, tes quatre bras se courbent avec une croix pâle. Je te revois en plein soleil, souvent avec des bulles de savon qui s'échappaient d'entre tes lèvres. Je m'en souviens, la barque dans l'eau tourne, avec elle, levier, tourne au grand soleil levant, et mes cheveux sont devenus bien noirs.
Jean-Claude Filunlé, journaliste, critique littéraire, écrivain, maire de la commune des Abricots, a lancé le 2 février un appel de détresse. Et c'est ce que j'ai choisi de lire ce soir. C'est un appel de détresse que je lance. Ma commune s'impose d'accueillir près de 8000 rescapés du séisme, dont certains ne sont pas originaires de la région. Vendredi, pour l'ensemble du département, les services de la protection civile en avaient déjà enregistré 80 750. Plusieurs orphelins, égarés, hébétés, venus d'un ailleurs dont ils ne se rappellent pas le nom, hantent les campagnes. Il a fallu les prendre en charge sans assistance, sinon grâce à la générosité de quelques amis haïtiens, antillais, français, belges, et de la générosité de quelques familles paysannes auxquelles la mairie a donné par enfant une ration d'un demi-kilo de riz et une boîte de lait. Geste dérisoire qui ne suffit pas à pallier un certain inconfort morale, ni à me donner bonne conscience comme représentant d'une autorité pratiquement faillie. J'ai découvert dans les yeux hagards de ces enfants affamés qui avaient attendu sur les quais de Port-au-Prince plus de 8 jours avant d'être évacués vers leur lieu présumé d'origine, ce que peut être l'indignité d'un pouvoir central qui de plus en plus s'absente de ses territoires de responsabilité. Je m'attendais à des difficultés d'approvisionnement à court terme. Force est de constater que la précarité s'installe en termes d'immédiateté. Au marché du lundi, les produits vivriers ont disparu des étals aux premières heures. Un effet de rareté? Face à l'abondance des récoltes, la mairie avait envisagé l'épuisement des réserves à fin février. Une erreur d'appréciation du volume des arrivants. Avoir le flux, une espèce de conglomérat humain, on ne peut plus parler de nombre, mais de volume et de la pression, de la menace que cela représente. Les produits de première nécessité manquent déjà, notamment le sucre. Hier soir, une âme généreuse m'a offert une tasse de thé braqué avec du jus de canne à sucre. On se console du goût âcre en prétextant que le jus de canne est un fortifiant. À la précarité s'ajoute l'angoisse. Le pouvoir central est désespérément indifférent à la misère physique et morale de cette population, qui, revenue en ces lieux d'ancrage, s'en trouve pourtant déracinée. La terre continue de trembler sous ses pieds et plus que jamais lui donne le sentiment de sa vulnérabilité, de sa fragilité, perdue, seule, abandonnée. Elle n'a plus de repères, sinon les édiles à qui elle demande de faire un miracle, la prendre en charge. Avec quoi? Le gouvernement n'assiste pas. L'aide internationale On en parle, mais personne ici ne sait ce que c'est. Une seule question sur toutes les lèvres. Survivra-t-on? Jean-Claude Fignolet, maire de la commune des Abricots, le 2 février 2010. Et parce que force est de constater que les vautours rôdent, et les faucons aussi, un avertissement, un cri d'alarme. Haïti, l'ouvrigeo, de Wesley Rigaud. Veillez, petite. Veillez, adversaire magouillé. Refusez à l'opa. Boule grise, on sorti Washington, passé Boca Raton, atterri cloutoup, cloutap, Areboron. Kite yo titile. Haïti, kite yo titile. Jouette ça, c'est mort raide. Y'oublie. Jouette ça, c'est mort raide. Kite yo titile. Veillez, petite, veillez, fouillez trou, cachez boule pic, l'ouvrigeo. Petite ou ap mode tete ou. Zami ou ap baoul. L'ouvrigeo, Haïti. L'ouvrigeo. Wesley Rigaud.
Magloire Saint-Aude, veillez. La morte était couchée dans un lit étroit, noir et belle. Elle semblait dormir, allégée. On dirait de la peine de vivre. C'était au Bel Air la nuit, dans une ruelle équivoque. Dans la chambre mortuaire, les assistants étaient comme écrasés sous le poids d'un lourd et mystérieux chagrin. Dans la galerie, les voisins étaient assemblés, et c'était un bavardage à mi-voix entre la mère de la défunte et la baigneuse de cadavres. Celle-ci fumait un mauvais cigare en crachant. Elle halenait l'ail. On avait chuchoté que la trépassée n'avait pas succombé à la maladie. Et l'on assurait qu'elle avait rendu le dernier soupir sans agonie. Ce n'était pas, disait-on, une mort naturelle. Comme dans la galerie, on servait à boire, je quittai la chambre de Thérèse, la morte s'appelait Thérèse, et j'allais m'asseoir sur l'insistance de la madre entre cette dernière et la baigneuse de cadavres, qui me réclama aussitôt avec autorité du feu pour son cigare. Je fis craquer une allumette et, en approchant la flamme près du visage de la baigneuse, je remarquai qu'elle avait des yeux de hibou ou de sorcière, qu'elle avait des yeux aigus, des mains horriblement calleuses, nos regards vifs comme des éclairs se croisèrent avant que je fisse face à la serveuse qui me tendait un thé à la cannelle. Je bus, puis une rasade de clairin et du café. Je secouai la cendre de ma pipe, la bourrée, douillet du merveilleux tabac splendide à l'arrière-goût de chocolat. À minuit, un homme courroucé sortit du couloir attenant à la saison mortuaire. C'était un griffe, ventru, comme une femme enceinte. Le rustre fouettait avec véhémence une jeune fille en robe de nuit transparente, une belle grimelle d'une carnation marbrée au regard d'ange. Elle était insensible aux coups qui lacéraient sa chair. Du sang tachait son vêtement à l'épaule quand, dans le lointain sinistre, un chien hurla à la mort et, sans qu'on sût d'où il vint, le roquet, blanc comme du lait, fit irruption dans la ruelle et se mit à lécher les pieds de la fillette. Mes camarades Laurent P. et Gaston F. m'appelèrent pour vider en leur compagnie une bouteille de Barbancourt. Je laissai donc à leur bavardage, en m'excusant à regret, la mère de la morte et la baigneuse de cadavres. Et je rejoignis les buveurs. Et mon regard, comme aimanté, ne parvenait pas à se détacher de ses yeux d'autre monde. Je réussis néanmoins à avaler un verre d'alcool que Laurent me versait dans la bouche. Ensuite, j'eus le hoquet. Gaston m'apporta alors de l'eau citronnée que je bus haletant, en gorge espacée. Je me fis violence et je parvins à me lever, comme un automate, pour clore les paupières de la défunte. L'épouvante glaça mon sang et une légère fumée s'échappa de ma veste. Mais une sérénité indicible, tout à coup, inonda mon cœur pendant que je portais le tuyau de ma pipe à mes lèvres. Tous les invités étaient partis. Depuis une heure, l'Angélus avait tinté au clocher de la cathédrale. À l'Orient, les étoiles pâlissaient. Ma gloire, Saint-Aude. Gary Clan, entre douleur, nostalgie et espoir. Toute terre est prison. La carrière de sable ressemble à un vieux corps sans âme, tout comme cette terre qui s'enfonce dans la mer et la mer qui prend couleur de sang séché. La ville assiège le port, elle n'a plus rien des murs de ma mémoire. Toute terre est prison. La mienne a pris la couleur du sang frais et les enfants se meurent sous les dalles d'insouciance. Même le soleil vous fait grise mine. Les fruits n'ont pas d'odeur. Ils sont tous blés avant d'éclore. Quelle est donc cette souffrance qui s'acharne sur ma terre? Tout espoir s'est figé comme une bougie éteinte. Ma terre prison au mur de peur, la mer couleur de sang. Quelle est donc cette douleur qui s'attaque à mon île? Ma terre est un très vieux souvenir qui s'estompe dans les sables. Me manquent les bruits du soir et les senteurs. Le coq qui chante à la minuit, les chiens en rue sous la fenêtre. Me hante le bruit sourd du tambour au creux du soir. Et cet homme qui fait rire les petits en portant sur la tête un amas de bouteilles. Il y avait aussi tous ces bruits de tropiques, les lucioles ou que sais-je, aux cris ponctués à la nuit comme en un concert d'ombre. Il y avait, mais faudra-t-il que j'énumère tout ce qu'il y avait? C'était, à ne pas y croire, c'était l'âme de l'île qui vit et bouge, avec l'odeur pour moi unique d'Ilan Ilan. Il y avait des soirs et des matins de rêve. Il y avait, mais il n'y a plus que le souvenir. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Je prends ce verre à celui qui, sans rime et sans façon, chanta le pont de Seine et le nouveau, pour dire ce qu'au Tryphon gît par ces temps de mort et de déconfiture, ces heures de haine et d'amertume, où l'on ne sait à quel saint se vouer, quel Dieu prier, puisque tout paraît vide, et que les êtres ont perdu sens et équilibre. Les petits hommes éteignent les flambeaux et font de l'ombre sur la terre. Il est grand temps, vous dis-je, de rallumer les étoiles. Gary Clan.